Chers membres et chers sympathisants de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne, l'épidémie continue ses ravages, le confinement est encore de rigueur. Nous ne pouvons pas organiser de réunion au mois d'avril, ni vraisemblablement en mai. Je vous propose une suite à la conférence précédente. Elle traite du choléra en Maurienne et de l'action du docteur Antoine Motard. Ce travail est en grande partie tiré de mon discours de réception à l'Académie de Savoie, dont vous pouvez retrouver le texte intégral dans le volume des mémoires de 2017. Une troisième conférence est en cours d'écriture, j'espère pouvoir vous la présenter prochainement. Donc le choléra morbus fait sa première apparition en Europe en 1831. En 1834, on craint l'arrivée de la maladie en Savoie. La médecine de l'époque étant impuissante, on a recours à la foi. Les intercessions à Saint-Roch et à Saint-Sébastien, les saints antipesteux, reprennent vie. Dans sa lettre pastorale du 1er septembre 1835, Mgr Alexis Billiet, l'évêque de Maurienne, écrit « Moïse a dit, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, toutes les malédictions tomberont sur vous, malédictions sur vos villes et sur vos campagnes, malédictions sur vos enfants, sur vos troupeaux et vos récoltes. Le Seigneur vous enverra une suite interminable de mauvais succès, des sécheresses brûlantes, des froids excessifs. La guerre, la pauvreté, la famine, un air pestilentiel, des maladies contagieuses. Et tout cela parce que vous n'avez pas écouté la voix du Seigneur, ni observé sa loi. Dieu, pour donner aux hommes un nouvel avertissement, envoie contre eux une maladie contagieuse, inconnue au siècle passé. Les savants, dont le génie ne croyait plus rencontrer de limites, sont demeurés muets. On a souvent répété qu'il n'existe pas de remède spécifique contre le choléra. Cette assertion n'est pas entièrement exacte. Il en existe un, mais il n'en existe qu'un seul, c'est de se réconcilier avec Dieu par le moyen d'une bonne confession, c'est de se mettre en état de grâce, tandis qu'on le peut, et de se soumettre ensuite à toutes les dispositions de la Providence. Alors l'idée selon laquelle la transgression d'un seul attire une épidémie sur la multitude, elle est très ancienne. Elle existe par exemple déjà dans la pièce de Sophocle, Œdipe roi, en 425 avant Jésus-Christ. En tout cas, le rappel des risques pour les récoltes fait par l'évêque de Maurienne semble avoir été prémonitoire puisqu'une succession d'épidémies des végétaux commence en 1845 et se poursuit jusque vers 1856. La vigne est atteinte par l'oïdium dès 1845, suivie de la maladie de la pomme de terre. En 1846, c'est la maladie des betteraves et enfin celle du blé qui va durer jusqu'en 1851. Mgr Billiet ajoute à cette lettre pastorale des instructions à l'usage des curés, recteurs et vicaires du diocèse de Maurienne pour le cas où le choléra viendrait à envahir leur paroisse. Il demande aux prêtres de ne pas quitter leur paroisse en cas d'épidémie, de pratiquer la charité, de prendre les mêmes précautions que les médecins, de maintenir une grande propreté au-dedans et au-dehors de leur maison et d'avoir un minimum d'hygiène corporelle. En 1835, une épidémie de choléra débute à Gênes. Le docteur Motard s'y rend, appelé par un de ses anciens professeurs de la faculté de médecine de Turin pour l'aider à soigner les malades du fléau, car les médecins locaux ont quitté la ville. En Savoie, la première épidémie date de 1854. La maladie est apportée par des gens qui fuient Marseille et viennent se réfugier en Savoie, apportant dans leurs vêtements la maladie en incubation. L'épidémie, qui dure 3 mois, débute le 20 juillet, visitant 73 communes situées dans 6 des 8 provinces qui composent l'ancien duché de Savoie. Elle est relativement bénigne puisqu'on ne retrouve que 1925 malades pour une population de 122 039 personnes et 678 décès. En Maurienne, 3 communes voisines sont atteintes, Aiguebelle, Montgilbert et Randan. Le médecin d'Aiguebelle, le docteur Brunier, qui ne connaît pas le choléra et qui donc ne sait pas le traiter, voit mourir ses compatriotes. Il s'adresse à l'intendant de la province, le marquis del Caroto, qui, affolé, envoie sur place un ancien médecin de Saint-Jean de Maurienne, le docteur Duprat. Ne connaissant pas non plus la maladie, il n'a guère plus de résultats. L'intendant, informé que le docteur Motard s'est rendu à Gênes en 1835 pour y traiter le choléra, lui demande de se rendre en Basse-Maurienne. Antoine Motard accepte, mais en posant un certain nombre de conditions. D'abord que l'on mette à sa disposition trois religieuses. Ensuite, que le syndic d'Aiguebelle soit prévenu immédiatement de son arrivée, qu'il soit informé que la maladie régnant dans sa commune est le choléra, maladie que le docteur Motard connaît. Et enfin, que dans cette affection, tout retard entraînant forcément la mort des personnes qui en étaient atteintes, il ne voulait pas que le conseil communal fût appelé à délibérer sur les demandes de chaque moyen de secours et autres qu'il serait dans le cas de réclamer dans l'intérêt des malades. Il demande les pleins pouvoirs, ce qui lui est accordé. Le docteur Motard part le jour même avec les religieuses, arrive à Aiguebelle où il visite immédiatement les malades qui sont au nombre de 17, la plupart dans la phase la plus avancée de la maladie. Afin de leur apporter les soins les plus efficaces, il demande la création d'un hôpital, ce qui permet de les rassembler dans un seul lieu. Le soir même, un local est trouvé et 12 malades y sont réunis et traités. Peu de temps après, l'épidémie arrive à Randan. Le nouvel intendant, le comte de Faverges, qui a remplacé le marquis del Carotto, accorde les mêmes facilités au docteur Motard, qui prend les mêmes dispositions qu'à Aiguebelle. Le 26 août suivant, en exécution de la circulaire de l'intendant de la province du 23 juillet relative à l'hygiène publique et pour éloigner autant que possible les causes de l'épidémie de choléra régnante, le conseil communal de Saint-Jean-de-Maurienne délibère d'instituer une commission de 8 membres chargé de veiller à tout ce qui intéresse la santé publique et de provoquer toutes les réparations propres à améliorer la salubrité dans l'intérieur de la ville. Les docteurs Motard et Schex sont chargés d'indiquer les arbres voisins des habitations qu'ils estiment devoir être abattus et de surveiller qu'il n'y ait pas de fruits avariés ou en non-maturité parfaite qui soient introduits dans la ville. Fin août 1854, l'épidémie semble confinée aux trois paroisses de Basse-Maurienne. Le docteur Motard commence alors dans le journal Le Courrier des Alpes du 29 août une campagne pour améliorer l'hygiène publique. Il est impossible de prévoir, dit-il, quand le choléra envahira nos provinces. Néanmoins, la saison avancée dans laquelle nous sommes nous fait espérer que pour cette année, il est parvenu aux limites que, rationnellement parlant, il ne saurait franchir. Mais qui peut nous assurer qu'après s'être assoupi pendant l'hiver, le choléra ne se réveillera pas, menaçant au sortir de cette saison? Dans cette hypothèse qui n'est pas dénuée de probabilité, ne conviendrait-il pas dès aujourd'hui de prendre toutes les mesures, toutes les précautions imaginables pour le priver de son élément propagateur, dès lors qu'il est bien reconnu que le choléra a choisi pour sa pâture de prédilection tout ce qui contribue à vicier l'air que l'on respire, et ce, dans toutes les localités, sans exception. Ne devrions-nous pas procurer à nos populations un bon air, du soleil et la libre circulation du vent? C'est peu, mais c'est presque tout. Il est encore temps. À l'ouvrage, et déclarons une guerre active, instantanée, une guerre à outrance, aux immondices, aux amas de fumier et de substances en putréfaction, aux mauvais fruits, aux arbres qui entourent, enveloppent et couvrent de leur ombre funeste les habitations de nos campagnes. Agissons simultanément et sans relâche jusqu'à complet achèvement. Les populations y sont préparées. Dans un mois, tout peut être fait. L'hiver terminera l'œuvre de désinfection et au printemps, il nous sera donné de respirer un air pur et sans miasme. Si alors le choléra vient à passer sur nous, ne trouvant plus rien qu'il retienne, il s'éloignera de nos vallées et de nos montagnes en épargnant des milliers de victimes que l'état actuel des choses lui assure inévitablement. Le 7 octobre suivant, on craint un retour de la maladie. L'évêque de Maurienne met généreusement à la disposition de l'intendance et de l'administration communale pour le cas où le choléra viendrait à se déclarer dans cette ville, la maison des missionnaires, encore appelée couvent des Capucins, mise en état de recevoir immédiatement les malades. Le vicaire général, recteur du séminaire, fournit les lits et le linge nécessaires. Les sœurs de Saint-Joseph, fidèles à leur mission de sacrifice et de charité, s'offrent pour apporter les soins aux malades. Dans sa lettre pastorale, Mgr Vibert, l'évêque de Maurienne actuel, parle de la maladie et en profite pour donner quelques conseils. Les ravages que le choléra a exercés dans diverses contrées de l'Europe ont excité des craintes parmi un grand nombre d'entre vous. Ces craintes se sont accrues depuis que l'on a appris que le terrible fléau a fait son apparition dans quelques lieux de la Savoie. Nous conservons encore l'espérance qu'il ne s'étendra pas jusqu'à notre diocèse, ou que du moins, il ne viendra pas au milieu de nous avec une grande intensité. Cependant, nous croyons, mes très chers frères, devoir vous exhorter à prendre dans cette circonstance les précautions qu'indique la prudence chrétienne. Parmi les péchés qui fournissent plus spécialement un aliment à l'épidémie qui nous menace, l'Esprit Saint place celui de l'intempérance, le manque de retenue, de modération, en tête. « Garde-toi, dit-il dans le livre de l'Ecclésiastique, garde-toi, mon fils, d'être avide dans le repas, et de te charger de mets. L'excès dans le manger cause des maladies et conduit jusqu'aux plus cuisantes douleurs. Le vice de l'incontinence, le plus dégradant de tous, nous est aussi représenté comme le plus terrible dans ses effets. Les insomnies, les tortures et le choléra sont pour l'homme déréglés. Donc, si vous voulez écarter de vous le fléau qui nous menace, vous devez éviter les excès et les désordres. Il faut que vous soyez sobre et tempérant, et que vous résistiez à vos passions. Le second moyen d'éloigner le choléra est la tranquillité de l'esprit. Rien ne dispose plus à cette maladie qu'une crainte excessive de la maladie même. Le 10 octobre, on tente encore dans le courrier des Alpes de rassurer les populations en affirmant que jusqu'à ce jour, il n'y a dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne aucun cas de choléra, pas même de cholérine, ni d'autres maladies épidémiques. Alors ces affirmations de la part des autorités ont pour but d'essayer d'éviter l'apparition de la peur. Lorsqu'elle devient trop forte, la plupart des gens veulent quitter le périmètre dangereux. Les riches et les notables peuvent le faire, mais pas les pauvres. Un malaise s'installe chez ces derniers, qui peut tourner à la colère, voire à l'émeute. Et on en arrive à ce double phénomène, assez connu en période d'épidémie. Les nantis craignent les classes basses, les plus démunis ressentent un sentiment d'impuissance face à la maladie, dont croient-ils les riches savent se prémunir, ce qui suscite un réflexe de défense qui les amène à les désigner comme les responsables de l'épidémie. Je vous invite à lire les travaux de Gérard Fabre sur le sujet. Le 13 octobre, le docteur Motard publie un long article dans lequel il explique que le mal est arrivé dans nos vallées, qu'il ne pouvait en être autrement car l'épidémie nous enveloppait de toutes parts et qu'il est de son devoir de citoyen et de médecin de donner quelques conseils utiles pour en prévenir les ravages ou du moins les diminuer. Ces conseils s'adressent d'abord aux élus. Prévenons, prévoyons à tout par mesure provinciale, communale et domiciliaire. L'initiative générale, la surveillance et le contrôle appartiennent au Conseil sanitaire et à son président. L'action est du ressort du Conseil délégué de chaque commune. Mais il nous faut des syndics intelligents, pleins de bonne volonté et d'une grande énergie. Aux syndics appartiennent les améliorations communales et domiciliaires. S'il le veut, il peut faire de grands biens à ses administrés, et c'est malheureusement ce qui ne se fait pas. Et si l'on veut s'en convaincre, que l'on parcourt les communes, et l'on verra ce qui a été fait. Mais le docteur Motard explique pourquoi la situation est mauvaise et il propose une solution. Il poursuit. Les syndics sont souvent à plaindre. Il faut excuser leur apathie qui n'est souvent qu'apparente, car l'état précaire de leur position, leur rapport de parenté, de voisinage, d'intérêt, etc., les empêche de faire tout le bien qu'ils désireraient. Et dans ce cas, c'est à l'autorité supérieure de prendre l'initiative. Et c'est bien le cas où jamais de faire du bien aux populations, même malgré elles. Plus tard, elles en seront satisfaites. Il revient ensuite sur ce qui constitue depuis plusieurs années une grande partie de son combat, les problèmes d'air vicié. Il écrit « Il est incontestable que le choléra est épidémique, et dès lors il nous est apporté par l'air ambiant. Si à cet air vicié on ajoute encore pour augmenter sa viciation, il est également incontestable que cette maladie frappera d'abord tous ceux qui vivent sous cette double influence. C'est ce qui a partout été observé depuis que le choléra a envahi l'Europe. Il est donc de toute nécessité que l'on s'avise par tous les moyens possibles à procurer à nos populations de l'air, du soleil et la libre circulation du vent. Il préconise aussi deux autres mesures. D'abord, agrandir les cimetières en prévision de la forte augmentation des décès et les sortir du centre des villages. Et puis, autre mesure à caractère pratique, la création d'hôpitaux pour colériques dans chaque commune. Il estime que ce n'est que par ces hôpitaux, pourvus des remèdes de l'époque et de personnel dévoué aux malades, que l'on peut éviter de perdre les trois quarts des colériques. En effet, dit-il, comment veut-on donner des secours utiles à un colérique dans les communes qui ont des villages très éloignés, et même dans les grands centres, si le malade est obligé d'attendre une ou plusieurs heures que le médecin soit près de lui? La maladie n'a-t-elle pas le temps de devenir incurable? Et dans une épidémie de cette nature, où les remèdes doivent être administrés avec promptitude, énergie, constance et intelligence, qui se chargera ou pourra se charger de le faire? Le médecin ne pourra pas rester longtemps près d'un malade. Il faudra qu'il coure à un autre, qu'il aille et qu'il vienne jour et nuit. Quelle est la force humaine qui pourrait lutter des semaines entières contre une aussi rude besogne? Alors en général, pour exprimer ses opinions dans les journaux, le docteur Motard utilise volontiers des pseudonymes. Pour traiter du problème de l'eau et des fontaines de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, un Anglais, le docteur Snow, a depuis peu identifié pour la première fois et de manière rigoureuse la source de contamination la plus fréquente pour le choléra, à savoir l'eau potable et les fontaines auxquelles s'approvisionnent les citadins. En tout cas, donc dans ce cas, Antoine Motard va utiliser un autre subterfuge qui consiste à faire écrire une lettre par un habitant qui veut se plaindre de la qualité de l'eau délivrée dans la ville. J'ai lu de très utiles conseils donnés par ce modèle de citoyens zélés et de médecins dévoués, dont les talents et preuves de civisme sont assez connus pour que j'épargne ici à sa modestie les éloges qu'il mérite à si juste titre. Mais avec tout son bon vouloir et ses bonnes intentions, M. Motard a oublié que dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, nous nous abreuvons d'une eau sale, pleine d'insectes et d'éléments pernicieux à la santé publique. Que sur un grand nombre de fontaines, une seule est permanente, lorsqu'elle n'est pas réduite même à un très petit filet d'eau pour 3000 personnes. Que cet état de choses ne peut se tolérer plus longtemps par les pères de famille et surtout par les contribuables qui ont certainement motif de craindre le choléra et qui ont la croyance d'avoir le droit de faire appel à l'administration supérieure qui a tant de sollicitudes pour nous précautionner contre le fléau européen et qui doit, pour ce motif, voir qui, de l'administration communale ou de l'entrepreneur des fontaines publiques, est chargé de nous fournir de la bonne eau, attendu que toutes les sociétés médicales et les administrations municipales de l'Europe ont reconnu que l'eau ménagère doit être limpide et saine, ce qui est loin d'être applicable à l'établissement des eaux dans les 15 fontaines de Saint-Jean, sèches, vides et arides. Le choléra reste finalement confiné aux communes de Basse-Maurienne, surtout à Randan, où la maladie sévit assez fortement. Les chiffres officiels annoncent 1,37% de la population touchée par l'épidémie et 0,64% de décès, soit environ 660 personnes pour tout le département. Mais ces chiffres doivent être pris avec prudence parce que de nombreux cas n'ont pas été recensés dans les campagnes. En 1860, la Savoie est rattachée à la France. Le 22 mai 1862, Antoine Motard est nommé maire de Saint-Jean-de-Maurienne par décret impérial. Son installation est faite lors d'une séance du conseil municipal présidée par le préfet de la Savoie. Le représentant du gouvernement fait observer que la nomination de ce médecin habile et versé dans les connaissances hygiéniques ne saurait manquer d'être bien vue et appréciée puisqu'elle est toute de circonstance et répond parfaitement aux besoins actuels de la ville qui a tant à faire en ce moment au point de vue de l'assainissement et de l'hygiène. Le docteur Motard quitte son poste de maire à peine 3 ans après, le 6 septembre 1865. Le 27 novembre de la même année, Antoine Motard reprend la plume pour écrire un article intitulé « Du choléra ». Il explique qu'une nouvelle épidémie est en cours. Celle de 1831 avait été apportée du delta du Gange par des troupes russes venues des confins de l'Inde pour réprimer la révolte polonaise. La nouvelle a été apportée par des pèlerins musulmans qui, venant des mêmes lieux, se sont rendus sans organisation ni surveillance et en caravane à la Mecque. Partant du Midi, elle est maintenant arrivée à Paris. La question qui se pose est de savoir si la Savoie va être contaminée ou pas. De temps motard pense que l'arrivée de l'hiver devrait retarder la maladie jusqu'au printemps. Il estime opportun de se préparer efficacement à une nouvelle arrivée de la maladie. Devons-nous attendre avec impassibilité? Non, nous devons nous préparer. Je n'entends pas indiquer toutes les mesures qu'il y aura à prendre. Ce serait inutile dès lors que le gouvernement vient de le faire par son organe officiel. Mais je dirais qu'il est de ces choses que l'on peut faire impunément en hiver. Je veux parler de l'enlèvement général et scrupuleux durant la saison froide de tout ce qui occasionnerait des miasmes pendant les chaleurs. Si contre notre attente, le choléra venait s'abattre sur nos vallées, il ferait bien moins de victimes. Car s'il est avéré qu'il va partout, chez le riche et chez le pauvre, il est bien connu que c'est ce dernier qu'il frappe avec plus d'intensité parce qu'il est moins bien alimenté, moins propre et généralement moins sobre. Quand on est préparé, le choléra n'est pas aussi intense, ses cas ne sont pas aussi nombreux et il est de plus courte durée. Enfin, les malades étant en plus petit nombre, reçoivent plus de soins et l'on compte un plus grand nombre de guérisons. Le choléra ne sévira pas en Savoie cette année 1865, mais en 1867. L'épidémie vient d'Italie, de Bourgogne, commune de la province de Suse, apportée par des familles qui viennent travailler et se procurer en Savoie des moyens de subsistance, et aussi par les nombreux bestiaux arrivés d'Italie. L'épidémie aurait commencé le 18 juillet, mais il semble que la population ait au début refusé l'évidence. Le docteur Motard écrit « Comme ailleurs, on ne voulait pas croire à l'apparition du choléra dont on parlait cependant tout bas. Plusieurs faisaient les incrédules, traitaient d'alarmistes ceux qui n'en doutaient pas, leur conseillaient de n'en rien dire par crainte de jeter l'épouvante. Et c'était un grand mal. Quelques-uns disant que le choléra existait, d'autres le niaient. C'est pourquoi le sous-préfet, le 2 août, voulant se renseigner de manière positive, prit le docteur Motard d'aller s'assurer par lui-même de l'état des choses. Il commence son inspection par la commune de Fourneau, 366 habitants, mais où s'entassent plus de 2000 ouvriers piémontais, sans compter les femmes et les enfants, sur le chantier du tunnel des Alpes. Cette population refuse tout contact avec le médecin du chantier, disant qu'il les empoisonne. Depuis l'arrivée du choléra dans les années 1831-1832, les agressions contre les médecins et leurs collaborateurs se multiplient. Ils sont souvent taxés d'imposture en raison de leur rhétorique savante qui dissimule mal leur impuissance face à cette maladie dont ils ne comprennent pas le processus infectieux, et cela en raison des limites des connaissances de l'époque. Et cette situation elle est aggravée par les querelles internes à la profession entre ceux qu'on appelle les contagionnistes qui croient au miasme et les anticontagionnistes qui estime que les causes de la maladie sont liées aux mauvaises passions, au mauvais air ou à la mauvaise nourriture. Le docteur Motard, en arrivant, trouve au cabaret un malade convalescent. Il reconnaît arriver du Piémont depuis 11 jours seulement et qu'il a fui une commune contaminée. Le choléra est bien là. Antoine Motard conseille au chef de chantier de laisser partir tous les ouvriers qui voudraient quitter le chantier pour diminuer la promiscuité et de ne plus recevoir de personnes en provenance d'Italie. Cette mesure est immédiatement validée par le préfet. Motard prend ensuite contact avec deux de ses confrères du canton de Modane pour mettre en place des mesures de prévention et pour assurer le service en cas d'explosion de la maladie. Le docteur Motard, sur ordre du sous-préfet, parcourt ensuite un maximum de communes de Maurienne car la maladie progresse très vite. Partout, il instaure des mesures d'hygiène, s'entretient avec ses confrères médecins, avec les curés et les maires. Il constate que certains malades guérissent après l'emploi de tels remèdes, alors que d'autres guérissent après l'emploi de remèdes totalement opposés. Et il dit dès lors, je me suis demandé s'il m'était permis à moi, petit et obscur médecin d'une petite ville, de sortir de l'ornière commune et de chercher un traitement nouveau à mon usage seul. C'est ce que j'ai fait, et que j'aurais mieux expérimenté encore si j'avais pu appliquer dans un hôpital la méthode que je me suis faite. Notre ville en est bien pourvue d'un, mais je n'y puis mettre les pieds en ayant été évincé pour des motifs politiques après 20 ans de service. L'épidémie qui dure 3 mois touchera 698 malades dans les 28 communes de Maurienne atteintes par la maladie, pour une population de 22 439 habitants. Le docteur Motard en tient une comptabilité précise. 382 malades guérissent. Il y a 308 décès, dont 36 enfants, 145 femmes et 200 hommes. 201 hommes exactement. À l'issue de l'épidémie, le docteur Motard rédige un rapport de 19 pages dans lequel il consigne toutes ses observations sur la maladie, les épidémies qu'il a vécues, ses expérimentations médicales, son plan de traitement avec la composition de sa pilule. Ce rapport sur les épidémies de la Maurienne, choléra de 1867, est envoyé au préfet de la Savoie et à l'Académie de médecine où il obtient une mention très honorable. Dans ce rapport, les conditions purement médicales cohabite avec des observations plus empiriques. Partant du principe que la contagion se fait par l'air chargé de miasmes, Antoine Motard explique, après avoir remarqué, que les oiseaux, à l'exception de ceux qui ont encore une couvée, avaient tous abandonné les communes où sévissait la maladie. La maladie ayant cessé à Villargondran, quelques jours avant Saint-Jean-de-Maurienne, cette commune, qui n'en est éloignée que d'environ 3 km en ligne droite, voyait son ciel sillonné par des myriades d'hirondelles, tandis qu'on n'en voyait point à Saint-Jean, où elles sont revenues quand le choléra l'a quitté. L'action du docteur Motard lors de cette épidémie sera récompensée en janvier 1869 par une médaille d'argent décernée à la demande de l'Académie de médecine par le ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. Il m'a semblé intéressant de mettre ce médecin du XIXe siècle en valeur dans une situation bien spécifique, les épidémies de choléra. Je vous remercie de votre attention et à bientôt, j'espère.